Chanel.
Oui.
Chez la psychologue.
Pourquoi as-tu rapporté la machine?
Oh, bah parce que. Comme je pouvais pas la revendre, comme je pouvais rien en faire, moi j'ai eu peur. Il a fait. Je sais pas, je l'ai rapporté. Je sais pas pourquoi, comme ça.
Dis-moi, il paraît que tu as volé 10 000 francs à ta grand-mère.
Elle m'avait invité, c'était le jour de son anniversaire. Et puis alors, comme elle est vieille, elle mange pas beaucoup. Et puis elle garde tout son argent, elle en aurait pas eu besoin, elle allait bientôt mourir. Alors, comme je connaissais sa planque, j'étais lui faucher des ronds, quoi. Je savais bien qu'elle s'en apercevrait pas. La preuve, c'est qu'elle s'en est pas aperçue.
Tes parents disent que tu mens tout le temps.
Bah, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges.
As-tu déjà couché avec une fille?
Non, jamais, mais enfin, je connais des copains qui sont allés. Alors, ils m'avaient dit, c'était vachement envie, t'as qu'à aller rue Saint-Denis, là, il y a des filles. Alors, moi, j'y suis allée, et puis, j'ai demandé à des filles, et je me suis fait vachement engueuler, alors j'ai eu la trouille, et puis je suis partie.
Les 400 coups de François Truffaut, c'était en 1959. On entendait ici Jean-Pierre Léo dans le rôle d'Antoine Doinel, avec tout ce naturel qu'on voyait déjà dans ces extraits de casting de Jean-Pierre Léo qui ont pas mal circulé. Alors, il y a trois cinéastes que vous mettez particulièrement en avant dans votre ouvrage. Nicolas Livecki, on est toujours avec vous pour évoquer votre essai, hein, L'enfant acteur de François Truffaut à Steven Spielberg et Jacques Doyon. Ce sont principalement ces trois réalisateurs dont vous parlez. Et vous dites que Spielberg et Doyon ont en commun d'avoir François Truffaut comme référence, comme socle commun pour sa façon de filmer l'enfance, de mettre les enfants au premier plan. Et pourtant, Truffaut ne dirigeait pas les enfants, contrairement à ce qu'ont fait quand même Spielberg et Doyon. Alors, quelles sont les idées de François Truffaut qui sont vraiment restées et qui sont passées chez ces réalisateurs-là?
C'est un des premiers réalisateurs à consacrer autant de place à l'enfant dans sa filmographie et à s'intéresser autant à l'enfant. C'est-à-dire que jusque-là, on avait des enfants qui pouvaient être des partenaires pour des acteurs adultes, qui pouvaient être dans des comédies, mais des réalisateurs auteurs qui accordent autant de place à leurs souvenirs et à l'enfance, Truffaut, en tout cas, fait partie comme ça un peu de ses précurseurs. Et je dirais que Spielberg et Doyon sont dans la droite ligne, c'est qu'ils vont s'engouffrer dans cette brèche et faire de l'enfance un thème essentiel pour toute leur filmographie. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il se trouve que ce sont dans les années 70 deux jeunes réalisateurs que Truffaut a encouragés de manière très différente. Quand Doyon sort Les Doigts dans la tête, qui est son premier film vraiment personnel, Truffaut fait un article vraiment dithyrambique où il fait une éloge de la direction d'acteur. Il va faire un peu la même chose avec Duel, qui est aussi le premier film de Spielberg. Et en plus, il va accepter la proposition de Spielberg de devenir un des comédiens principaux de Rencontre du troisième type. Donc en gros, on a Truffaut, qui était donc évidemment cinéaste, mais également critique. Les deux jeunes réalisateurs, les deux derniers jeunes réalisateurs qu'il a soutenus sont Spielberg et Doyon. Donc, évidemment, il n'y a pas de hasard.
C'est un voyage, bien sûr, tout au long de cette ligne du temps du cinéma, ici et à Hollywood. Hollywood et l'Europe, d'ailleurs, que vous n'opposez pas forcément, Nicolas Livecki. C'est la vague aussi des baby stars. La plus fameuse d'entre elles, c'est bien sûr celle-ci.
I wish Mother was here.
This is the Candyland Hour for all good children. The orchestra will play our theme song.
You know that song, don't you?
Sure I do.
Well, then sing it. Come on, girlie, sing it.
My drum and trains. I want to make some noise with real life aeroplanes. Someday I'm going to fly.
Voilà donc Shirley Temple qui chante ici On the Good Ship Lollipop. C'est un film du film Bright Eyes en 1934. C'est la vague des baby stars à Hollywood. Des bébés que l'on utilise pour, au fond, mettre en valeur leur partenaire adulte. C'est cela, Nicolas Livecki?
Oui, Shirley Temple est quand même un exemple un peu à part parce qu'elle pouvait être une star à part entière. C'est-à-dire, contrairement aux autres, elle n'était pas forcément. Elle ne servait pas uniquement de partenaire. C'est vrai qu'elle avait quand même un truc en plus. Mais c'est vrai, quand on entend l'extrait, là, ce qui est assez frappant, c'est le décalage qu'il y a entre l'utilisation des enfants dans le cinéma américain de cette période, où on est vraiment dans le showbiz, dans le spectacle, avec les enfants qui minaudent, qui chantent, qui dansent, qui savent tout faire. Et je dirais les enfants qu'on trouve dans le cinéma américain aujourd'hui, où pour le coup, on a des vrais comédiens qui incarnent des personnages, qui jouent des sentiments, où les enfants sont considérés comme des acteurs à part entière. La meilleure preuve en est que maintenant, leur nom apparaît au générique de début à égalité avec les acteurs adultes. Et ça, pour le coup, c'est vraiment Spielberg qui a amené ça.
En tout cas, ce qu'on constate, c'est que l'utilisation et la présence de l'enfant dans le cinéma évoluent évidemment avec le temps. Et que dans les années 50, par exemple, l'enfant est là pour faire le deuil des traumatismes de la guerre. Alors, c'est un cinéma auquel n'adhère pas forcément Truffaut. Il disait, par exemple, de Crin blanc d'Albert Lamorisse en 52, que c'est un tire-larme.
Oui, il est très dur avec Crin blanc, il est très dur avec Albert Lamorisse. Mais il est pas, c'est pas tellement dans l'utilisation qui peut être faite des enfants que de la manière dont ils sont filmés. C'est vrai qu'à la même époque, il y a le néoréalisme italien, qui, pour le coup, utilise des enfants dans des fictions qui n'en sont plus vraiment, des enfants qui ne sont pas des comédiens, qui sont des amateurs à part entière. Et c'est un cinéma qui va évidemment énormément marquer Truffaut avec des films comme Le Magasin des Zéros ou Le voleur de bicyclette. Et je pense que Truffaut, quand il attaque comme ça Albert Lamorisse, c'est parce qu'il a en tête une autre présentation de l'enfance qu'il vient de découvrir, qui est le néoréalisme.
Alors on va retrouver maintenant l'un des piliers de votre ouvrage, c'est Steven Spielberg, avec un extrait d'E.T.
Phone.
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 You want to call somebody?
Stay here, still. And don't tell anybody. No, nobody. Be good. Be good.
Oh, God!
Elliot.
What?
Elliot? Elliot?
I taught him how to talk now. He can talk now.
Elliot.
Voilà, alors que nous ici à E.T., il y avait comme les enfants ici, c'était Henry Thomas et Drew Barrymore. Drew Barrymore que l'on connaît encore aujourd'hui, Nicolas Livecki. Alors vous l'avez déjà un petit peu évoqué, après la guerre, donc les choses vont changer dans ce regard sur l'enfant avec l'émergence de nouvelles formes de cinéma, le néoréalisme italien, des réalisateurs aussi qui sont hantés par l'enfance comme Ozu ou comme Encini. Les personnages deviennent moins lisses, c'est ça, les thèmes se densifient. Puis les années 80, c'est l'explosion ici, 1980. 82 pour Spielberg.
Oui, avec E.T., je trouve que même à l'oreille, on entend vraiment la différence entre ce qu'on vient d'entendre de Shirley Temple et Drew Barrymore, qui, pour le coup, n'est pas en train de nous faire un spectacle. Là, Drew Barrymore, elle est en train de vivre la scène, et ça se sent vraiment à l'oreille, même en anglais, même avec la voix d'E.T. Et je pense que la réussite d'E.T. et le succès d'E.T. Existent si le monde entier a pleuré pour cette créature. C'est avant tout parce qu'elle existait à l'image, dans les yeux et dans les sentiments des enfants acteurs. Je pense que le film n'aurait jamais pu avoir un tel succès si les enfants n'avaient pas cru à ce qu'ils étaient en train de raconter et s'ils ne nous avaient pas fait croire à nous, spectateurs, qu'il y a effectivement cet extraterrestre qui a débarqué chez eux.
Alors, qui dit aussi plus grande présence des enfants et des adolescents à l'écran, dit aussi possibilité de décrocher des prix d'interprétation. Alors, en 88, on a Jeudi Mai, 13 ans, qui à Cannes partage le triple prix d'interprétation pour Un monde à part. En 96, il y a un vrai scandale quand la petite Victoire Tivisol remporte le prix d'interprétation à Venise pour Ponette. Avec cette question, où s'arrête le naturel et où commence le jeu, justement, avec des enfants ?
Toute la polémique qu'il y a eu quand la petite Victoire a reçu son prix pour Ponette. Il est évident, quand le jury de Venise décerne un prix à Victoire Tivisol, c'est avant tout une manière de remettre un prix à la direction d'acteurs de Doyon. Ponette est forcément un film qui pose problème, puisque ce sont des comédiens qui ont entre 4 et 6 ans, avec une histoire qui est quand même une histoire de deuil, donc qui n'est pas non plus les sentiments les plus faciles à interpréter pour des enfants. Toute la polémique qui a accompagné la sortie de Ponette montrait aussi une vraie méconnaissance au fait des méthodes de travail de Doyon. Mais c'est un film qui se fait sur la durée, qui se fait avec une collaboration très active entre les techniciens, les intervenants sur l'équipe, psychologues, etc., et les enfants, avec une longue préparation. Et les prises qu'il y a dans Ponette sont le fruit parfois de 2 jours de travail. C'est vraiment un travail avec les enfants. Et Ponette est le fruit de recherche en termes de jeu d'acteur avec les enfants qui fait qu'on aboutit à un résultat qui, forcément, quand on ne sait pas ce qui s'est passé derrière, est assez vertigineux pour un spectateur.
Qu'est-ce que tu fais là ?
C'est pour mettre la tête dehors.
Non.
Si tu roules moins vite, je pourrais le faire.
Moi, je peux rouler encore plus vite si tu veux, mais je fais attention, tu vois. Je t'ai pas attaché, comme ça tu vois la différence entre les gens qui font attention et ceux qui font pas attention. Pas comme ta conne de mère.
C'est pas une conne.
C'est moi qui conduisais peut-être ? Même pas bourré, même pas vite. Une route qu'elle connaît par cœur, mais... À quoi elle pense? Avec toi dans la voiture, à quoi elle pense?
Elle n'a pas fait exprès. C'est pas de sa faute.
T'es bien là-haut?
Oui.
Tu veux me faire une promesse?
Oui.
Tu n'auras jamais que tu meurs. Tu vas jurer et tu vas cracher.
Et quand on est très très vieux?
J'en ai rien à foutre. Tu craches, tu me dis je vais jamais mourir. Tu me le dis, vas-y.
Je vais jamais mourir.
Plus fort, je veux y croire vraiment.
Je vais jamais mourir.
Crache.
Ponette, c'est ce miracle du cinéma, de la rencontre entre Victoire Tivisol et Jacques Doyon en 1996. Ici, Victoire Tivisol aux côtés de son père de cinéma, qui était Xavier Beauvois. C'est toute la question aussi, bien sûr, mais c'est une question qui se pose aussi pour les acteurs en général, même les adultes, du vol, du viol, de ce que l'acteur donne de façon consentante ou pas, ici, qui s'est posé Nicolas Livecki.
Cette séquence, en l'occurrence, avec Xavier Beauvois, c'est une séquence où j'ai pu avoir accès au rush de cette scène où il sort de la voiture, elle est sur ses épaules, il marche, il lui promet de ne pas mourir. De toute façon, c'est quoi le cinéma pour un comédien, pour un réalisateur, de faire en sorte que le comédien parvienne à une émotion? C'est le mettre en condition, avant tout. C'est pas essayer de lui voler quelque chose, c'est faire en sorte qu'il soit en condition de vivre la séquence. Et le mettre en condition, c'est évidemment pas le torturer ou électrifier des barreaux d'un lit pour le faire pleurer, c'est faire en sorte qu'il comprenne la séquence et qu'il vive la séquence. Donc dans une scène comme celle-là avec Xavier Beauvois, c'est déjà de rendre crédible la relation père-fille, c'est de faire en sorte que la comédienne enfant et le comédien adulte croient à cette relation, et de prise en prise d'arriver à un moment où, quand ils disent leur texte, eh ben, ils y croient de plus en plus à ce qu'ils sont en train de raconter. C'est complètement ce qui s'est passé pour cette séquence.
Oui, et puis d'autres scènes aussi où la petite Victoire fait véritablement des propositions, entre guillemets, à Jacques Doyon, où elle est complètement dans la scène et elle se met à pleurer alors que c'était pas du tout une demande du réalisateur, par exemple.
Oui, c'est la séquence où elle prie dans l'église, où il y a de grosses larmes qui coulent sur son visage. Il y a eu un témoignage comme ça de l'actrice Winona Ryder, qui est une grande actrice de Tim Burton, qui a dit que c'était la séquence qui l'a le plus impressionnée en termes de jeu. C'est vrai, quand on voit la scène qui est filmée en gros plan avec ses larmes sur cet enfant de 4 ans, on se dit mais comment ils sont parvenus à ça? Bon, quand on regarde les rushs, ce qui est très curieux, c'est d'abord Jacques Doyon et son équipe qui sont les premiers étonnés à ce résultat-là. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'une fois que Doyon annonce la fin de la prise, Victoire se tourne vers la caméra, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, genre, bon, est-ce que ça, c'était bien, quoi? Enfin, c'est un peu ce qu'elle exprime. Elle joue, quoi. Elle ne pleure pas, elle joue.
Avant Doyon, avant Truffaut, Spielberg et quelques autres, vous le dites dans cet essai, l'enfant acteur, Nicolas Livecki, c'est Buñuel et les cinéastes anglais qui vont exploiter la face sombre de l'enfance.
Avant que les enfants parviennent à accéder à une modernité du jeu, donc à une complexité des personnages, il a fallu une évolution de la manière dont ils étaient représentés. Et c'est vrai, quand on regarde les films des années 30, des années 40, un enfant, ça reste cette espèce de figure qu'on retrouve dans la peinture, un peu anonyme, qui est espèce d'adulte miniature, mais c'est pas encore un personnage à part entière. Et il a fallu des réalisateurs comme Buñuel, il a fallu l'avènement du cinéma de genre, le cinéma fantastique, pour qu'on commence à filmer les enfants dans toute leur complexité, dans toute parfois leur perversité. Et c'est un peu cette brèche qui fait que, de fil en aiguille, on a pu leur donner des rôles de plus en plus compliqués, et a fortiori qu'ils puissent accéder à des personnages, et donc jouer des personnages de plus en plus ambigus, de plus en plus complexes, et accéder à cette modernité du jeu de l'acteur.
Moi, il y a une phrase qui m'a frappée dans votre ouvrage. Vous dites que Truffaut disait que même s'il a beaucoup filmé l'enfance, que c'était épouvantable de travailler avec des enfants, et pourtant, il a vraiment persévéré dans cette voie. Donc, il y avait quoi? Une satisfaction quand même particulière à arriver à ses fins avec les enfants?
Alors, Truffaut, c'est un paradoxe, parce que quand on écoute Spielberg ou Doyon parler de leur collaboration avec les enfants, ils disent exactement le contraire. Doyon le répète, ce n'est que du bonheur. Truffaut, il y a un vrai paradoxe. C'est vrai qu'entre sa vision de l'enfance, qui, quand on entend certains témoignages de gens qui ont travaillé avec lui, Truffaut n'avait pas une vision si idyllique de l'enfance et n'était pas aussi intéressé par les enfants que ses films traduisent. Alors que dans le cas de Spielberg ou de Doyon, on sent un vrai plaisir de travailler avec eux. Donc là, il y a quand même une certaine ambiguïté. Peut-être aussi que ça vient du fait que, comme il l'avouait lui-même, il ne les dirigeait pas vraiment. Ils prenaient surtout plaisir à enregistrer leur performance à la caméra.
Voilà, l'enfant acteur, c'est l'essai de Nicolas Livecki, de François Truffaut à Steven Spielberg et Jacques Doyon. Ça paraît aux Impressions Nouvelles. On va se quitter avec un gamin bien de chez nous, celui au vélo, le gamin des frères d'Ardenne, Thomas Doré, ici. Merci beaucoup, Nicolas Livecki.
C'est quoi?
Je t'ai dit, un bon coup qu'on pourrait faire nous deux.
Oui, mais c'est quoi le coup?
Bah, pour te le dire, faut que je puisse te faire confiance.
Tu peux?
Sûr?
Ouais.
Je suis pas sûr, Pete Billy. Un petit air de focus, attends. Hey, Pitbull. Rien qu'un petit air de focus chez toi. Hey, je rigole. Je te fais confiance, total. Tiens. Ça te dirait de venir habiter chez moi?
J'habite déjà ce matin.
Tu peux changer de famille d'accueil. Il y a une chambre vide à côté de la mienne. Les vieux seront d'accord, j'ai qu'à leur demander. Tu veux que je leur demande?
D'accord. C'est Samantha.
Je me laisse parler, hein. On se retrouve samedi.
Qu'est-ce que tu fais là? Tu cherches partout depuis 2 heures.
C'est pas de sa faute, il était en bas de la ville avec un pneu crevé, je l'ai emmené au garage.
Moi, je t'ai rien demandé, donne ton vélo. Non, je rentre tout seul. Tu viens avec moi.
Salut, hein.
Salut.